D'accord. Alors, on va prier pour débuter ce temps et après quoi nous ferons la lecture du passage au complet qui a été notre source de réflexion cette semaine. Et je terminerai en répétant à quelques reprises le dernier verset que nous étudions aujourd'hui. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ta présence en nous et autour de nous. Merci Seigneur d'être constamment là à nous regarder, à nous protéger et à répandre sur nous Seigneur ta bénédiction et ta grâce. Merci Seigneur pour le soutien que tu nous accordes dans des périodes qui sont encore difficiles et dans des périodes qui sont particulièrement incertaines. C'est sécurisant de t'avoir de notre côté et d'être avec toi, ô Dieu. Sécurisant, Seigneur, de savoir que le rocher solide qui perdure d'âge en âge est celui sur lequel nous avons bâti et nous bâtissons encore notre maison. Alors, Seigneur, nous te demandons une dernière fois cette semaine d'ouvrir notre entendement à ta parole, d'ouvrir notre réflexion et de nous bénir, Seigneur, par une parole que tu as préparée de toute éternité pour nous. Tu savais que nous serions réunis ce matin afin de scruter ta parole, afin de plonger nos regards dans ta parole. Et tu savais, Seigneur, que nous aurions besoin de force, que nous aurions besoin d'une nourriture solide. Alors ce matin, merci pour ce que tu as préparé et merci pour ce que tu fais parmi nous. Je prie, Seigneur, que tu bénisses ma sœur, que tu bénisses mon frère et que ce temps, Seigneur, leur soit profitable. Mais plus encore, Seigneur, je prie que ces paroles qui seront échangées aujourd'hui puissent avoir un impact concret dans leur vie et un impact, Seigneur, sur l'avancement de ton royaume. Utilise ma sœur, utilise mon frère. Conscientise-les, Seigneur, de la responsabilité qu'ils ont face à l'avancement de ton œuvre et permets-leur, Seigneur, de répondre présent à ton appel. Alors nous t'avons prié avec cette assurance que tu nous aimes, que tu prends soin de nous. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors nous lisons dans 2 Timothée 2, du premier verset au verset 7, et le verset thème aujourd'hui, le verset 6. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Je reprends le verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Alors c'est ce verset effectivement qui termine notre temps de méditation de cette semaine. On a vu plusieurs choses. La première journée, pour ceux qui se demandent pourquoi je lis le verset 6 alors que le verset 7 est la conclusion de ce petit passage, c'est que le verset 7, on l'a expliqué lors de notre toute première journée, lundi, où on a étudié les versets 1 et les versets 7. Lundi, nous avons eu comme titre « Apprenons, comprenons et marchons ». Apprenons de Dieu, comprenons la volonté de Dieu et marchons à proximité de notre Seigneur. Mardi, nous avons vu le verset 2 et le titre pour la journée, c'était « Apprenons, partageons et partageons encore ». C'était ce fameux passage où Paul dit ce que tu as reçu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le aussi à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Et on disait que ce qu'on recevait comme enseignement, la parole de Dieu qui nous était donnée, il était de notre responsabilité aussi de la donner à d'autres, et non seulement de la donner pour que la masse entende et se tourne vers Christ, mais aussi d'avoir cette sagesse de partager nos connaissances avec d'autres afin qu'eux-mêmes puissent acquérir et distribuer à d'autres. Mercredi, on a parlé du fait de souffrir avec Paul, exhortation à Timothée bien sûr, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». On a vu que nous étions appelés à être des soldats qui allaient être décorés pour leur travail, pour leur dévouement à la tâche. On a vu qu'on était des soldats qui, de façon permanente, étaient en guerre, étaient sur le front, étaient en exercice ou en service actif, et que nous servions de façon active et de façon adéquate, premièrement pour plaire à celui qui nous avait recrutés, soit notre Seigneur Jésus-Christ. Jeudi, hier donc, nous avons parlé de l'athlète qui est appelé à être couronné, mais qui est appelé à être couronné simplement s'il fait son travail d'athlète adéquatement, s'il respecte les règles qui régissent la course et s'il accomplit la course jusque à la ligne d'arrivée, s'il franchit la ligne d'arrivée. Et de surcroît à ça, s'il franchit la ligne d'arrivée dans le temps qui avait été prescrit pour la course. Et aujourd'hui, on parle du laboureur. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ce matin, j'aurai 8 points à partager avec vous qui vont pas mal couvrir l'ensemble des termes qui sont utilisés dans ce sixième verset. Le premier terme qui nous apparaît, c'est le terme géorgos. Géorgos, G-E-O-R-G-O-S. Je répète, G-E-O-R-G-O-S. On parle ici d'un fermier, oui, d'un agriculteur, mais l'agriculture, comme pour bien d'autres activités, peut être divisée en différents champs de travail, en différentes activités. Et ici, on parle tout d'abord de ce premier rôle qui est effectif dans le rang des cultivateurs, et on parle du laboureur. Le laboureur, pour ceux qui n'ont pas nécessairement une grosse expérience en agriculture, le laboureur, c'est celui qui, une fois que la terre a été défrichée, une fois qu'on a enlevé les ronces, qu'on a enlevé les pierres, qu'on a enlevé les troncs d'arbres, les branches qui meublaient le sol, c'est celui qui vient ouvrir la terre, qui vient fendre la terre. On avait souvent cette image des deux bœufs qui sont devant le laboureur et qui ont une espèce de pièce de bois sur les épaules et une pièce de bois avec du métal qui vient s'incruster dans le sol. Et plus les bœufs avancent sous la directive et sous les directions du fermier, la terre est fendue par la pièce de bois et la pièce de métal qui fait que cette terre commence à être renversée, commence à être travaillée. Et on peut alors y semer la graine, la plante qu'on veut introduire au sol. On parle ici des gens qui sont dans cette première étape de l'œuvre de Dieu. Rappelons-nous, on s'adresse ici dans un texte qui est adressé d'abord à des gens qui sont en train de défricher. Timothée, bien qu'il avait été placé à la direction de l'église d'Éphèse, on était dans une génération de l'Église qui était au tout début. C'est pour ça que régulièrement, on va parler de l'Église du Nouveau Testament comme de l'Église primitive, donc l'Église première génération à sortir. Et comme l'Église première génération débutait l'œuvre, si on l'associe à l'agriculture, il faisait effectivement l'œuvre de laboureur. Donc, ils ouvraient la terre. Il fendait la terre pour préparer l'ouvrage d'autres serviteurs qui viendraient par la suite. Nous sommes probablement dans une époque, je crois, et j'ai eu l'occasion de vous partager ma pensée là-dessus, nous sommes dans une époque de transition. Nous sommes dans une époque où nous entrons de façon un peu précipitée avec le confinement et tout ça, mais nous entrons dans une nouvelle ère de la société, voire de l'humanité. Et ce faisant, le monde que nous allons rencontrer va avoir besoin d'ouvriers et de laboureurs. L'Église à laquelle nous appartenons, et je parle ici de l'Église de Dieu, l'Église universelle, rentre dans une nouvelle phase de son histoire et dans une nouvelle phase où nous aurons besoin de laboureurs, de gens qui vont ouvrir le terrain, qui vont ouvrir la terre pour ce qui vient après, pour la semence qui sera ensemencée par la suite. Alors effectivement, encore aujourd'hui, l'œuvre de Dieu a besoin de laboureurs qui font un ouvrage de précurseur en défrichant et en ouvrant la terre. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, toujours avec le terme géorgos, l'œuvre de Dieu a besoin de laboureurs qui préparent la terre, et je spécifie, même sans voir les fruits. Le laboureur n'est pas celui qui récolte. Le laboureur n'est pas celui qui moissonne. Le laboureur est celui qui ouvre la terre. Par la suite, il y a un semeur. Par la suite, il y aura quelqu'un qui va prendre soin de la plante qui est en train de grandir en enlevant à un moment donné la mauvaise herbe, en coupant des branches peut-être qui ne portent pas des fruits, jusqu'au moment où la récolte va être mûre et va être cueillie. Mais le laboureur, lorsqu'il fait son ouvrage, il ne voit pas les fruits. Et parfois, il nous est difficile à nous en tant qu'humains et en tant que chrétiens humains, il nous est difficile de travailler si on n'a pas cette assurance de voir de nos propres yeux et de goûter de nos propres lèvres le fruit de notre travail. Ici, le laboureur était appelé à œuvrer même s'il ne voyait jamais le fruit de son travail. La récompense est promise. La récompense, la Bible nous dit que celui qui travaille mérite son salaire. Donc le laboureur qui travaille pour Dieu mérite son salaire. Mais le salaire qu'il reçoit n'est pas nécessairement un fruit qu'il a planté en terre, un fruit découlant d'une semence qu'il a mis en terre. Alors pour nous aussi, lorsque nous rentrons dans cette nouvelle phase de l'Église et dans cette nouvelle phase de la société, il nous faut travailler en dépit du fait que peut-être nous ne verrions pas de nos yeux humains, de nos yeux mortels, le fruit et le résultat de notre travail. Assurance que le fruit de notre travail n'est pas vain et que ce fruit nous suivra jusque dans l'éternité et que dans l'éternité, nous verrons les fruits du travail des uns et des autres. Mais le laboureur, ici-bas sur terre, doit accepter de travailler même s'il n'avait pas à voir de fruits. Il prépare la terre, il prépare l'ouvrage de d'autres personnes qui vont venir, d'autres professionnels qui vont venir après lui. Il prépare tout cela. Il ne verra peut-être pas le fruit, mais il fait pleinement son travail. Troisième point qui vient maintenant avec le terme kopiao, qui veut dire travail ou travaillant. Donc le terme c'est K-O-P-I-A-O. Je répète, K-O-P-I-A-O. L'œuvre de Dieu a besoin de laboureurs, et ça va être la phrase qui va revenir constamment durant notre étude de ce matin. L'œuvre de Dieu a besoin de laboureurs qui acceptent le fait que le travail est exigeant. Le terme travail ici, lorsqu'on le traduit en français, ça voudrait dire qu'il se fatigue, qu'il s'exténue, qui force, qui a un dur labeur. Et voilà pourquoi le titre de la journée, c'était « Le laboureur a son labeur ». Le travailleur a son travail. Que le laboureur soit effectif dans son labeur. Un travail veut nécessairement dire que c'est exigeant, qu'il y a des efforts qui sont fournis. Il y a trop de personnes qui viennent à Christ avec cette pensée qu'en arrivant dans le peuple de Dieu, qu'en arrivant dans la maison de Dieu, on se retrouve dans une espèce de club med, dans une espèce de club tout inclus, où on a tout simplement besoin de se prélasser et puis de recevoir la nourriture aussi souvent qu'on veut et de se désaltérer aussi souvent qu'on veut. Nous sommes des serviteurs servent. Nous sommes des soldats vont au travail pour leur général. Nous sommes des laboureurs travaillent. Et c'est une notion, je crois, qui devient de plus en plus difficile dans l'Église contemporaine et dans l'Église occidentale. On vient à l'Église et on assiste à des cultes, on assiste à des réunions, mais ce faisant, il y a des générations de chrétiens qui se succèdent les unes après les autres, où parmi elles, une majorité de gens ne sont pas actifs dans le royaume de Dieu. Venir à l'église dimanche matin ne suffit pas. Venir écouter, même dans ce temps de confinement, les prédications qu'on peut donner à travers les différents médias sociaux que nous utilisons, ça ne suffit pas. Le laboureur doit labourer. Le travailleur doit travailler. Un travailleur qui ne travaille pas est soit au chômage, soit il a été évincé du travail, ou soit il est mort. Un travailleur doit travailler. Un laboureur doit labourer. Dans le sens même de travail en grec, on comprenait la notion de celui qui se fatigue à la tâche, de celui qui s'exténue, de celui qui force. Voilà pourquoi Jésus va dire « Si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi. » Il n'a pas dit que nous ne serions plus fatigués. Il a dit qu'il allait nous donner du repos. Il nous donne du repos simplement pour être capable de continuer à travailler. Un travailleur travaille. Un serviteur qui ne sert pas ne doit pas prétendre qu'il est un serviteur. Je répète, un serviteur qui ne sert pas ne doit pas prétendre qu'il est un serviteur. Ça, c'est de l'usurpation de poste. Si je sers, alors je suis un serviteur. Si je travaille, alors je suis un travailleur. Si je laboure, alors je suis un laboureur. Si je cours, alors je suis un courseur ou un coureur. Si je vais au combat, alors je suis un combattant. Mais tant que je ne suis pas actif dans mon ouvrage, je ne peux pas prétendre être un serviteur. Donc, un serviteur doit servir. Et là, je mets tout de suite l'emphase et je n'ai cesse de le répéter. Lire ta Bible, ce n'est pas un travail, c'est de la nourriture. Prier, ce n'est pas un travail, c'est passer du temps dans la présence de Dieu et c'est de ta nourriture. La prière, la méditation de la parole de Dieu, la lecture de la Bible, ce n'est pas un travail, c'est simplement avoir une hygiène de vie spirituelle adéquate. La question pour toi, la question pour moi, c'est qu'est-ce que je fais pour faire avancer le royaume de Dieu? C'est ça, servir Dieu, c'est faire avancer, contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Et tu dois avoir un rôle à jouer dedans. Je dois avoir un rôle à jouer dedans. Chacun d'entre nous n'avons pas été appelés au Club Med, n'avons pas été appelés dans un camp de vacances tout inclus. Nous sommes appelés à être des serviteurs de l'Éternel. Plusieurs personnes veulent prétendre être des serviteurs, mais ne servent pas. Je ne suis un serviteur que si je sers. Toujours avec le terme copiao, c'est effectivement encore le travail. L'œuvre de Dieu a besoin de laboureurs qui ne fuient pas face à l'ardeur de la tâche. Certaines personnes commencent à labourer, puis à un moment donné, ils se rendent compte, hey, le champ, il est grand. Donc, c'est trop grand pour moi, je débarque et je m'en vais faire autre chose. Tu termines ton travail. Tu vas au terme de l'œuvre pour laquelle tu as été engagé, pour laquelle tu as été préparé, pour laquelle tu as été établi. Tu continues ton travail malgré l'ardeur de la tâche. Et je rajouterai un point bien personnel. Si le royaume de Dieu a besoin de laboureurs qui acceptent le fait que le travail soit exigeant, qui acceptent l'ardeur de la tâche, c'est aussi, on a aussi besoin dans l'œuvre de Dieu de laboureurs qui ne rechignent pas. Il y a trop de gens, tu les entends parler, puis leur travail est tellement abominable, tellement difficile, tellement demandant, tellement exigeant, tellement ceci, tellement cela. La Bible nous dit que le joug que Dieu nous donne est un joug léger. Il serait d'autant plus léger si nous comprenions ce pourquoi nous travaillons. Il serait d'autant plus léger si nous comprenions que servir Dieu est un privilège, une grâce, une bénédiction qui nous est donnée et non pas un tordage de bras. Trop souvent, j'ai regardé, ça fait le nombre d'années qu'on est à l'église, on a été nous-mêmes avec la famille sur le champ missionnaire. Trop souvent, j'ai entendu des gens qui donnaient des rapports d'œuvres, des rapports de champ missionnaire, puisqu'on entendait, c'était que c'est difficile, c'est pénible, on nous attaque, on nous fait ci, on nous fait ça. Comment voulez-vous que nos jeunes gens embarquent dans l'œuvre de Dieu si l'œuvre de Dieu est si misérable que ça? Moi, je n'ai cesse de dire que je fais le plus beau métier du monde. J'ai la plus belle profession du monde. Non pas parce que en soi, elle est mieux qu'un médecin, qu'un neurochirurgien, qu'un cuisinier, parce que j'aimerais bien être cuisinier, ou qu'elle est mieux qu'un policier, qu'un premier ministre, parce qu'à une époque, je voulais être président de la République. Je vous assure, ma tâche, mon œuvre, est plus belle, plus merveilleuse que toutes ces professions-là, pour moi, parce que je fais ce à quoi j'ai été appelé. Et c'est un privilège de savoir que de toute éternité, depuis le plus loin qu'on puisse retourner, et même encore plus loin que ça, Dieu pensait à moi et il avait une tâche qu'il voulait me confier. Alors lorsque j'accepte la tâche de Dieu, je dois me rappeler qui m'a donné cette tâche. Et que celui qui m'a donné cette tâche à accomplir aurait bien pu se passer de moi et aurait bien pu faire le travail tout seul, sans toi, sans moi. Mais il lui plaît de nous accorder une part dans l'avancement de son royaume. Alors honorons celui qui nous a appelés en nous rappelant que c'est un privilège et ne soyons pas ses serviteurs qui rechignent constamment. C'est pénible autour de nous d'avoir des gens qui rechignent. Je sais, Dieu est lent en colère. Il est riche en bonté. Il est patient comme aucun d'entre nous ne peut être patient. Mais imaginez le nombre de rechignages, de rechignements, je ne sais pas c'est quoi le nom commun, mais le nombre de plaintes qu'il reçoit constamment de ceux qui servent en disant « Seigneur, as-tu vu combien c'est dur? As-tu vu combien c'est pénible? » Et quand on parle les uns avec les autres, « Ouais, je suis allé faire telle chose, mais c'était tellement difficile. » Tu le fais pour la cause du Seigneur. Tu le fais parce que le Seigneur t'a donné l'occasion de mettre la main à la patte, de mettre l'épaule à la tâche, l'épaule à la roue pour faire avancer son royaume. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est un honneur que Dieu pourrait nous retirer. Alors, servons avec joie. Toujours avec Kopiao, on rajoute un terme, protos. Protos qui veut dire, qui est utilisé ici en français par avant. Kopiao qui veut dire travailler. L'œuvre de Dieu a besoin de laboureurs qui font fi de la fatigue, sachant que leur processus ou leur travaille dans ce processus agricole prépare le travail d'autres serviteurs. Je répète, peut-être avec d'autres mots, l'œuvre de Dieu a besoin de laboureurs qui font fi de la fatigue, sachant que le processus agricole et la récolte dépendent de la complétion, donc d'arriver à terminer son travail à chaque étape du travail. Le laboureur est un maillon, puis vient le semeur. Mais le semeur ne peut pas semer si le laboureur n'a pas fait son travail. Et celui qui va récolter ne pourra pas récolter si le semeur n'a pas fait son travail et si le laboureur n'a pas fait son travail. Chacune des étapes du travail est importante. Certains pensent « quand j'ouvre le chemin, je suis le plus important ». Non, tu es simplement un maillon. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir après. Paul va dire « j'ai semé, quelqu'un d'autre a arrosé, mais c'est Christ qui a fait croître ». Et pour nous, c'est encore la même chose aujourd'hui. Peut-être que dans certains cas, effectivement, tu vas servir de laboureur qui va défricher une terre, qui va ouvrir un terrain. Mais si le semeur ne vient pas après toi pour semer, tout ce que tu as fait était en vain. Au même titre, si quelqu'un ne vient pas à la fin de la saison pour récolter les fruits, ton travail a été vain. Mais au même titre, si toi, tu ne complètes pas ton travail, ben le serviteur qui vient après toi pour semer, ça ne lui sert à rien de semer. Son travail est futile parce que la terre n'a pas été travaillée et qu'elle ne peut pas recevoir la semence. Voilà pourquoi chacun d'entre nous doit savoir que notre tâche est primordiale dans le processus global qui est celui de l'avancement du royaume de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te demande à être un défricheur. Tu vas simplement passer ton temps à enlever des ronces, à enlever des branches, à enlever des pierres et des cailloux et rendre le terrain plat. Mais quelqu'un va venir après toi avec toute l'outillerie nécessaire pour ouvrir la voie, pour déblayer le chemin, pour travailler la terre, pour brasser le sol. Mais quelqu'un viendra aussi après lui pour semer. Quelqu'un viendra par la suite pour arroser. Quelqu'un viendra par la suite pour émonder. Et quelqu'un viendra un jour récolter. Mais la récolte ne se passe pas si le processus de travail graduel n'a pas été fait. Ton travail compte. Il compte parce qu'il y a quelqu'un après toi qui doit venir pour poursuivre le travail. Mais il ne peut pas le faire si toi, tu n'accomplis pas ton travail. Alors, fais ton travail. Fais-le bien. Fais-le totalement. Fais-le avec vigueur. Fais-le malgré la fatigue. Fais ton travail. Toujours avec le terme « protos », l'œuvre de Dieu a besoin de laboureurs qui comprennent qu'ils sont cet élément dans un processus. J'accepte que je suis un élément, mais j'accepte aussi que je suis dans une compagnie d'ouvriers. Ici, c'est le terme métalambano qui veut dire recueillir. Métalambano, dans le sens français, on en perd une bonne portion. Oui, il y a le fait d'aller recueillir, d'aller récolter, mais ça va plus loin que ça. Dans le sens grec du terme métalambano, donc M-E-T-A-L-A-M-B-A-N-O, on parlait ici de celui qui est établi partenaire et compagnon. Partenaire et compagnon. Partenaire dans l'œuvre. Tu es partenaire si tu es laboureur, tu es partenaire de celui qui a défriché. Tu es partenaire de celui qui a semé. Tu es partenaire de celui qui arrose. Nous sommes des partenaires. Chacun n'a pas le même rôle, mais nous sommes des partenaires. Et cet esprit d'équipe doit nous habiter. Ça veut dire que j'accepte que je fais partie du travail et que quand mon travail est terminé, c'est quelqu'un d'autre qui prend la suite. Et là, c'est là où plusieurs laboureurs ont de la difficulté. Il y a des gens qui vont défricher, puis ils ont pensé que parce qu'ils ont défriché, ils doivent labourer, ils doivent semer, ils doivent arroser, ils doivent émonder, ils doivent récolter. Quand on parle d'un jardin dans la cour arrière d'une maison, possiblement. Mais quand on parle d'un champ qui est vaste, tu ne peux pas tout faire sans prendre d'autres. Il te faut donc accepter que d'autres vont venir travailler après toi et que ceux qui vont venir travailler après toi n'ont peut-être pas ta technique, n'ont peut-être pas ta façon de faire, mais c'est leur travail, pas le tien. Peut-être que toi, tu le ferais autrement. Peut-être que tu aimerais leur dire, mais moi, j'ai travaillé de telle manière, donc je pense que tu devrais faire la chose de telle manière. Laisse le patron décider. Laisse le patron faire les choses. Accepte qu'à un moment donné, quand tu as fini ton travail, c'est quelqu'un d'autre qui vient. Regarde la personne, donne-lui le bâton, passe le relais et laisse cette personne continuer à travailler après toi. Très souvent, dans les ministères et dans les églises, la passation de pouvoir, la passation de bâton, la transition entre les différentes personnes, soit les générations ou soit les différents corps de métier, parfois ça se passe difficilement. C'est difficile dans le monde, c'est aussi particulièrement difficile dans l'église. Donc apprenons, faisons bien notre travail et acceptons qu'après nous, il y en aura d'autres qui feront le travail. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous ne sommes pas indispensables et nous ne sommes pas les uniques serviteurs et que nous ne sommes pas des hommes à tout faire ou des femmes à tout faire. Nous avons besoin de nos frères. Dieu nous a créés pour vivre avec des compagnons. Rappelons-nous ce que Dieu va dire à Adam lorsqu'il va créer Ève. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais donc lui faire une compagne, une aide semblable à lui. Une compagne. Le terme compagnon est un terme technique qui nous parle d'ouvriers, d'ouvriers qui collaborent les uns avec les autres, d'ouvriers qui mettent en commun leur savoir et leur force de travail pour arriver à un point ultime. Et ce point ultime est le fruit qu'on récolte en fin de saison. Mais nous sommes appelés à travailler en format de compagnon. Nous avons des compagnons et nous avons des compagnes de travail. Parce qu'il n'est pas bon que nous soyons seuls au travail. Un, on va s'y tuer. Deux, on va prendre la grosse tête en pensant que tout dépend de nous. Tout ne dépend pas de nous. Je pense que le fait qu'on ait besoin des autres, le fait qu'on nous a créés ayant besoin des autres, c'est pour nous garder humbles, pour nous permettre de nous rappeler que nous ne sommes pas le dernier coca du désert, qu'il y en a d'autres. Le problème d'Élie, quand Élie est parti, quand il a fui la menace de Jézabel, il a dit à Dieu, je suis resté moi seul à ne pas avoir plié les genoux devant Astarté et Baal. Et Dieu va lui dire, regarde, je t'ai rejoint là maintenant que tu es dans la caverne, je te dis, retourne, va oindre le roi de Syrie, va oindre le roi d'Israël, va oindre Élisée qui va prendre ta place. Et je te dis, il y a 7000 hommes, 7000 fils de prophètes qui n'ont pas plié les genoux devant Astarté. Et Baal. Parfois, on se pense tout seul, comme seul et valeureux serviteur. Il y en a d'autres. Chacun fait son travail. Et c'est en faisant chacun sa tâche, communément attachés les uns aux autres, que nous faisons avancer le royaume de Dieu. Ne soyons pas trop orgueilleux pour penser que nous sommes le serviteur ultime. Que nous sommes le serviteur seul et unique que Dieu a besoin. Il plaît à Dieu de te confier une part de sa tâche, de son ouvrage. Il plaît aussi à Dieu de confier une part et une tâche à un autre serviteur. À un serviteur, il va lui donner 3 tâches. À un autre, il va lui en donner 5 tâches. mais à un dernier, peut-être toi, peut-être moi, il va n'en donner qu'une seule. Pourquoi? Parce qu'il donne à chacun selon ses capacités. Dernier point, le terme karpos, qui veut dire fruit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Karpos. L'œuvre de Dieu a besoin de laboureurs qui, bien qu'ils ne voient pas le fruit de leur travail, travaillent et œuvrent avec cette vision en pensée. Quand tu es en train d'ouvrir le sol, pense aux fruits qui vont venir un jour. Quand tu es en train de défricher et que tu ne vois pas la fin de ton travail, pense aux fruits éternels qui vont découler de ton travail et de tout ce processus agricole dans lequel d'autres vont se joindre à toi et d'autres vont te succéder. Il y a un fruit éternel. Un fruit éternel qui, je te rappellerai, sont des âmes, des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui se tournent vers Christ et qui vivent comme toi pour l'éternité dans la présence de Dieu. Ce fruit-là est la chose la plus précieuse aux yeux de Dieu. C'était tellement précieux pour lui qu'il a envoyé son fils pour mourir pour ces gens-là. Jésus est mort pour ces fruits-là, des fruits qui durent jusque dans l'éternité. Alors quand tu travailles, rappelle-toi, tu es en train de travailler pour un fruit qui dure pour l'éternité. Tu vas me dire, la vie est longue. 20 ans, c'est long. 20 ans d'ouvrage sans voir le fruit, c'est long. Tu vas me dire, 80 ans sans voir le fruit, c'est long. 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, 90 ans, 100 ans, comparativement à l'éternité, ce n'est rien. Ton fruit durera et perdurera jusque dans l'éternité. Voilà pourquoi régulièrement, quand je prie dans nos prières de bénédiction du matin ou lors des prédications, je dis que ce qu'on va recevoir, Seigneur, puisse trouver une terre qui a été travaillée, une terre qui est propice à recevoir ta semence, afin que des racines puissent croître, que la plante puisse croître et qu'elle porte un fruit qui t'est agréable jusque dans l'éternité. Le fruit pour lequel tu travailles aujourd'hui, tu le verras peut-être simplement dans l'éternité, mais que ce fruit-là, que cette pensée, que cette vision t'habite. Je pense que c'est ce que la Bible nous enseigne lorsqu'elle dit que le juste doit vivre par la foi. Je travaille par la foi que mon service, que mon travail a une portée éternelle. Je travaille à une cause éternelle. Je travaille pour amener des fruits dans la maison de Dieu pour l'éternité. C'est tout un mandat. Mais je suis convaincu que tu peux être un bon soldat. Je suis convaincu que tu peux être un athlète hors pair qui sera couronné pour avoir combattu de la bonne manière. Et je suis convaincu que tu peux être ce laboureur qui fait fi de la fatigue, qui fait fi de l'ardeur du travail, qui fait fi de la tâche qui est demandante, parce qu'il n'a en pensée que les fruits qui perdureront jusque dans l'éternité. Alors je vais prier pour toi et je vais prier pour moi ce matin. Seigneur, nous te bénissons le temps que tu nous as donné, tant d'exhortations, de bénédictions et tant de rappels aussi à l'ordre. Seigneur, tu nous appelles à défricher dans cette nouvelle phase de l'Église et dans cette nouvelle phase de l'histoire de l'humanité. Mais tu nous rappelles, Seigneur, que ce travail sera exigeant et demandant, comme tout travail peut l'être. Tu nous appelles, Seigneur, à payer le prix, parce que le fruit qui en découle en vaut la peine. Ce matin, tu nous as aussi rappelé, Seigneur, que nous sommes un ensemble de serviteurs. Chacun d'entre nous, Seigneur, a un poste particulier auquel tu l'as appelé et auquel tu l'as convié. Nous prions, Seigneur, lorsque nous faisons notre tâche, tu puisses nous regarder et tu entends, Seigneur, des paroles d'action de grâce qui sortent de notre bouche. Que lorsque tu entends les pensées qui nous habitent, parce que oui, tu connais nos pensées, que ce soit des pensées d'action de grâce et d'allégresse, tout simplement pour le privilège de pouvoir travailler pour un tel maître que toi. Seigneur, que lorsque je travaille, je ne sois pas en train de me plaindre et de rechigner en cherchant la pitié des gens ou en cherchant l'admiration des gens. Celui à qui je veux plaire, c'est toi. Celui qui juge mon travail de soldat pour me décorer, c'est toi. Celui qui juge ma course pour me couronner, c'est toi. Celui qui juge mon travail pour me donner un salaire, c'est toi. Alors je prie, Seigneur, que ce soit par mes actions, par mes paroles ou par les pensées de mon cœur que je t'honore tout en faisant mon travail. Je veux pleinement faire mon travail jusqu'à son terme, sachant que d'autres viendront probablement après moi. Que si tu nous prêtes vie, d'autres générations viendront après nous. Seigneur, permets-nous simplement pour cette génération-ci, pour ce moment présent auquel tu m'appelles à travailler, permets-moi, permets à ma sœur, permets à mon frère de s'acquitter totalement et adéquatement de sa tâche. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu nous aimes et que tu prends soin de nous. Bénis ma sœur, bénis mon frère. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, c'était là la méditation pour nous aujourd'hui. Je vais essayer de voir qui s'est connecté. Hier, je me suis déconnecté assez rapidement. J'étais pris avec différents petits trucs. Il a fallu que j'abrège nos salutations de la fin. Donc, je vais essayer de trouver qui je n'ai pas vu. Je sais la dernière personne que j'ai vue et que je n'ai pas encore salué. Donc, je monte. Voilà. Donc, Rachel nous dit qu'il y avait, mais avant ça, la dernière personne qui s'était branchée avant qu'on ne commence l'étude. Bonjour Léo, je suis content de t'avoir parmi nous. J'espère que Chantal va bien, qu'elle est à ta côté. Si elle est là, elle reçoit mes salutations aussi. Bonjour à Mona, à Ocilia, à Marie-Marthe et à Chantal qui sont connectées à travers Rachel. Bonjour à la sœur Teresa. Dieu la bendiga, hermana. Oh, c'est gentil, Pascal. Merci à Gabriel pour ses salutations. Ramon, Dieu te bénisse. Nadia, God bless you. Happy to have you here once again from Toronto. La sœur Nancy, Dieu vous bénisse. Andrés, Dieu te bénisse. Maggie, Dieu vous bénisse. Denise de Deux-Montagnes ou de la région Deux-Montagnes, soyez bénis. Gloria de Ouaga, Dieu te bénisse. Yvelin, sois béni. Le bonjour à Maureen et à la petite. Pedro de Longueuil, soyez béni. Alexandros, Dieu te bénisse. Manuel, sois béni. Mayakat, soyez béni. Marianne Neiva, Dieu la bendiga. Makula, Dieu te bénisse. Oh, Anja, ça fait longtemps. Je suis content de t'avoir. Bonjour. Une grande voyageuse. Je ne sais pas, est-ce que tu es à Montréal, est-ce que tu es à Paris actuellement? Peu importe où tu te trouves, je suis content de te savoir parmi nous. Sois béni. Bonjour à Diane. Bonjour à Manon et au pasteur André, s'il est à tes côtés. Bonjour à la Adrien Silva. Dieu vous bénisse. Dieu la bendiga. Karine de Shawinigan, sois bénie. Marjo de Montréal, sois bénie. Mihandra, Elijah, God bless you. Je pense que c'est à peu près tout. Bonjour aussi à tous ceux qui étaient connectés via le service Internet de l'Église, la page Internet de l'Église. Je ne sais pas si j'en vois d'autres. Nous sommes tous des partenaires dans la tâche. Cette semaine, on a été mis au défi de bien faire notre travail de soldat. des soldats qui ne sont pas en répit, qui ne sont pas en repos, qui ne sont pas en permission, je cherchais le mot, qui ne sont pas en congé, qui ne sont pas en permission, mais qui sont en service actif. Vous n'êtes pas des anciens combattants, vous êtes des gens en service actif. Dieu nous a demandé aussi de nous rappeler que nous sommes dans une course et que nous devons bien courir notre course, bien terminer notre course et courir selon les règles de la course qu'il nous impose. Enfin, aujourd'hui, Dieu nous a montré à être ce laboureur qui, même s'il ne voit pas les fruits de son travail, laboure avec assiduité, avec passion, sachant que le fruit qu'il va amener à la maison est un fruit éternel. Et sachons travailler tous ensemble, même dans cette nouvelle étape qui est la nôtre au niveau de la société et au niveau de l'humanité. Mais travaillons, travaillons bien, travaillons aussi longtemps qu'il le faut, vidons nos forces pour que Dieu puisse les renouveler et travaillons encore et encore et encore. Alors que Dieu vous bénisse, on se retrouve ce soir à 19h pour notre temps de prière et de requête. Donc 19h, on démarre la soirée de prière ce soir. Alors bonne journée à tous, soyez bénis et à ce soir.